Plat de résistance. Une série d'émissions en 9 épisodes, les mains dans la terre, la langue dans nos assiettes.
Tourner nos micros vers le territoire et sa façon de s'alimenter. Écouter les voix de ceux qui produisent ce que nous mangeons.
Par habitude, on se simplifie énormément la tâche au niveau alimentaire. On est hyper local.
Le terrain d'écoute est rural et tend une oreille vers les petites villes qui feront peut-être demain.
Tu ne mangeras pas de l'épinard ?
Non.
Alors j'en mangerai, moi. Alors comment c'est pour moi ? Oui, je t'en mets 500 grammes.
Ah, 1 kilo, ça diminue ça, oh.
Donner à entendre ce qui s'y pense et s'y mange.
C'est bien.
C'est l'histoire de nos assiettes qui est en train de s'écrire.
Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites comme radio ?
C'est la radio là, si vous connaissez.
Ah oui.
Ouais. Et on prend du son, du marché, de l'ambiance du marché.
Ah oui.
Vous venez souvent ?
Une bonne alimentation pour tous, de l'idée à l'action. Le marché du lavoir est une expérimentation sociale qui s'inspire du projet de la sécurité sociale de l'alimentation. Manger des aliments bio et locaux ne devrait pas être réservé aux personnes ayant les moyens. Rendre accessible cette nourriture dans une petite ville comme Dieu le fit, c'est une histoire qui commence avec la rencontre d'un maraîcher et d'une élue en août 2021.
Voilà, donc mon activité marchait économiquement très bien et j'en vivais bien. Mais il y avait une insatisfaction au niveau social. Ça ne me satisfaisait pas de nourrir une certaine catégorie sociale plutôt aisée. Dans le sud, en fait, mon activité économique de maraîcher marchait très très bien. Je vendais aux clients qui habitaient donc, à la métropole de Montpellier, donc plutôt aisés en tout cas pour une bonne partie de la population. Donc je suis arrivé à Diolfi avec Julie, donc ma compagne qui est infirmière, avec cette idée de tiens, comment démocratiser l'accès à l'alimentation quoi. Et que ça soit pas Lidl qui se charge de la démocratisation. Donc c'est cette idée-là qui est née, comment faire, je savais pas trop. Et là-dessus, arrivé, j'ai vu passer le concept de sécurité sociale de l'alimentation. Je me dis tiens, mais ça ressemble un peu à ça. Voilà, au début, tu arrives là, tu choisis une bille, prix bleu, prix blanc, prix rouge, donc c'est au kilo, tomate, voilà, et ensuite tu donnes à Julie la bille, et elle te fait le prix. Et c'est libre, c'est comme ça, tout simplement, il y a des sacs, il y a des... Voilà.
Ben, c'est un système où il y a du coup, au lieu d'avoir un prix unique, il y a trois prix. Le prix qu'on pourrait dire classique qui rémunère le producteur, donc le prix producteur, et un prix plus accessible, donc, qui permet aux personnes qui ont moins d'argent, enfin, de moins au niveau social, de payer moins cher, et un prix solidaire qui est un petit peu plus cher, qui permet de compenser le prix accessible.
Et donc, je m'appelle Mathieu Yon, je ne suis pas néo-paysan, bien que je sois nouveau paysan. La force de l'idée, c'est qu'en fait, à la fois, on rend accessible des produits de qualité locaux, mais à la fois, on rémunère correctement aussi le producteur. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, vraiment c'est important, il ne s'agit pas d'une vente à perte. C'est-à-dire, c'est les prix à 125% qui équilibrent les prix à 65% et qui sont ramenés au prix à 100% pour moi. Moi, si j'ai vendu 30 kilos de tomates à 2,50€, à la fin, je récupère le prix de 30 kilos de tomates à 2,50€. Sinon, je n'en vis pas et c'est de la vente à perte et il n'est pas question de faire ça. Au début, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents d'élèves, que je remercie d'ailleurs. pas mal de gens décorent à vie et on va dire le public qu'on souhaitait toucher, entre guillemets, qui puisse accéder à cette nourriture au début, était là, mais doucement, quoi. Et à force d'expliquer, on a un peu aussi fait de porte-à-porte dans les HLM, mais pas que dans les HLM d'ailleurs, aussi dans d'autres endroits. Hein. Et puis petit à petit, il y a une personne, deux personnes, trois personnes. Et petit à petit, j'ai l'impression qu'en fait, chacun a pu se sentir en confiance et respecté. Parce que l'enjeu aussi, c'était pas de pas viser du doigt qui que ce soit. Ni viser du doigt les gens qui auraient les moyens, ni viser du doigt ceux qu'on n'aurait pas. Parce qu'en fait, d'un certain point de vue, j'en sais rien. Qui a les moyens, qui ne l'a pas. Et même d'un certain point de vue, je m'en fous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas mon problème, en fait. Ma question, c'est comment cette nourriture peut être accessible. Après, les gens, ils font comme ils veulent. Hein.
Bernadette Péronnel, je suis retraitée, j'habite à Dieulefit depuis 4 ou 5 ans puisque c'était la maison de mon mari, la maison familiale. Et j'ai été présidente de Croix-Rouge pendant 12 ans. Voilà. Donc ce qui explique que je cherchais quelque chose de Croix-Rouge mais il n'y avait rien ici et c'est vraiment ce que j'attendais. Quoi.
Ok, excellent.
Pour être dans une association qui me plaise. Ouais. La Croix-Rouge ça me plaît, c'est comme ça, je l'ai au bout des doigts. Alors, à Dieulefit, moi j'ai analysé, enfin on a analysé avec Alain Boulard justement. Il y a trois types de gens dans la précarité. On a beaucoup ici de retraités, c'est adorable cette ville, et beaucoup de gens retraités qui ont une petite retraite et à qui je pense ça ne suffit pas toujours. Mais c'est pas la majorité dans les 20 personnes que nous avons, parce que les retraités ils n'osent pas aller. On a une ou deux personnes, et encore. Après, il y a les migrants, ça c'est sûr, et à Dieulefit, c'est une terre d'accueil. Et la troisième, ce sont des jeunes, des gens qui ne travaillent pas, ou qui cherchent du travail, ou des jeunes qui ont un travail, mais qui touchent 1200 euros, et qui, quand ils ont payé leur loyer, leur électricité, ils ne restent plus rien. Quoi. Il y a des gens qui prennent le car pour aller à Montélimar, à Lidl, ou des trucs comme ça. Quoi. Des personnes avec qui j'ai discuté qui me disaient qu'ils allaient à Lidl, ou je ne sais plus où, enfin à Montélimar en tout cas. Mais bon, il faut payer le car, il faut partir... Enfin, moi, j'apprécie beaucoup cette mairie qui est à l'écoute de tout ça et qui a créé tout ça quand même, hein, depuis qu'ils sont arrivés. Et qui sont, oui, à l'écoute, c'est ça. Parce que de toute façon, il ne faut pas rêver, hein, il y a des gens dans la précarité, c'est sûr. Et c'est ça que j'aimerais qu'on pointe et qu'on mette en avant. Combien y a-t-il vraiment de familles qui sont nécessiteuses? Mais là où je reviens sur ce que je dis ici, et quand je les vois, ils me disent, est-ce que c'est bio? Il ne faut pas que ça soit, enfin voilà, quoi. Il ne faut pas que ça vienne d'Espagne, les courgettes. Mais là, en ce moment, en France, les courgettes, même nous, on n'en trouve pas. Et ce qui nous arrive, c'est les grands magasins qui larguent leurs trucs. Et qu'est-ce qu'ils larguent? Des courgettes d'Espagne. Donc il y a une réflexion. C'est pas parce qu'on est dans la précarité qu'on n'a pas de réflexion. C'est pas ça ce que je voulais dire. Hein.
Vous vous basez sur quoi pour...
Pour fixer le prix?
Non, pour les personnes.
Sur rien. Pas de justificatif, pas de justification, c'est vous qui vous basez en fonction de ce que vous pouvez, ce que vous voulez cette semaine-là. Ça peut changer d'une semaine à l'autre, en début de mois, fin de mois, selon l'envie, ce qu'on veut. Donc l'idée c'est ça, c'est de faire confiance en disant que la confiance coûte moins cher que le contrôle.
Oui, voilà. Mais...
Les prix solidaires financent les prix accessibles.
Oui, mais il y a un équilibre.
À la fin du marché, on refait toute la compta comme si on avait vendu à ce prix-là. Ouais, et si on a un excédent, ça ne va pas dans la poche du producteur, ça va dans une caisse de solidarité. Et cette caisse de solidarité, elle a pour but de permettre aux aides d'être pérennes. Si un jour le marché est déficitaire, le producteur à ce moment-là, il va prendre dans la caisse. Parce que l'idée, c'est pas qu'il en a perte. Donc cette caisse de solidarité, elle a pour but de pérenniser le projet s'il y a un déséquilibre à un moment donné. C'est ce qu'on appelle la sécurité sociale de l'alimentation.
L'idée
l'idée de l'accès, quelles que soient les personnes, en fait, accéder à l'alimentation, de droit à l'alimentation, pas une alimentation à deux vitesses avec les favorisés qui vont chercher dans les circuits courts, les magasins de producteurs, et puis les autres qui vont au discount ou à l'aide alimentaire. Et donc de se réunir et de refaire société autour du fait de s'alimenter, en fait. Et que quand je choisis d'acheter à un certain endroit, ça implique soit ben, une économie, quelque chose qui se passe sur le territoire, ou pas du tout, et prendre conscience de tout ça. J'aime bien aussi l'idée de... que les gens qui étaient déjà sensibilisés à une alimentation de qualité, bio, etc., se préoccupent pas que d'eux-mêmes, mais se disent bah, « sur mon territoire, comment aussi les autres se nourrissent ?» Ouais. Et je me sens concernée par ça.
Est-ce que vous avez acheté des légumes ici ?
Oui.
Oui ? Je peux vous demander pourquoi vous êtes venu ici, comment vous êtes venu ?
Eh bien, écoute, c'est incroyable, mais j'habite là en face.
Ok.
Alors, c'est vraiment... c'est magnifique, les légumes sont vraiment resplendissants. Il y a des haricots verts... je ne sais pas comment il est arrivé à faire ça avec la chaleur qu'il y a eu et tout ça. Et ça marche super bien, il y a plein de monde, alors que c'est juste du bouche à oreille, c'est magnifique.
Et ce système de billes et de prix
Moi, ça m'arrange très très bien. Mais comme je chante, j'ai plus de concerts, j'ai tout annulé. Et donc c'est un peu la dèche, quoi, depuis un petit temps, mais j'ai plus rien. Et donc, ça m'arrange très très bien, ces systèmes de prix. Et puis le jour où ça remonte, ben.
Et vous trouvez que ça fait une différence, le prix
Carrément. C'est vachement bien si ça pouvait toujours être comme ça. Parce que du coup, on peut y aller comme on le sent. Et puis le jour où on a de nouveau de l'argent, bon, on prend l'habit rouge et on contribue. C'est vraiment bien.
Et là, donc c'est l'idée qu'il faut mettre le nez dedans, quoi. Pourquoi en fait on laisserait les gens en difficulté sociale et économique être nourris par les surplus de la grande distribution, en fait? Parce que c'est ce que disait le gars de la Croix-Rouge. Ils font un CERFA, un document qui renvoie à la grande surface pour dire le volume qu'ils ont reçu gratuitement. Et ce document que reçoit la grande surface se le fait défiscaliser via l'aide alimentaire. Donc, il faudrait connaître quelqu'un qui est directeur de grande surface pour savoir qu'est-ce que ça représente. Est-ce qu'il y a... Dans quelle mesure c'est un intérêt économique? Dans quelle mesure il y a même un gain?
Sur le marché de Biolfi, c'est plutôt... Au départ, c'était plutôt un élan solidaire. Là, ça tend à s'équilibrer parce que, comme on a beaucoup fonctionné par le bouche à oreille, bah, les publics qui ont besoin du prix accessible, ils commencent à se fidéliser, à revenir. Et donc, c'est hyper important de pouvoir expliquer, de faire de la pédagogie et de l'éducation populaire au début, mais aussi tout au long. Parce que si la caisse, elle vient à diminuer, bah, il faut que les gens qui peuvent être solidaires le soient. Voilà, donc il ne faut pas que l'élan, il s'essouffle.
Moi, en fait, dans mon idée, la personne proportionnellement paye plus en payant 65% du prix en gagnant 500 euros par mois que la personne qui paye 125% du prix en gagnant 5000 euros par mois. Le prix n'est pas absolu, en fait, il est proportionnel à ton revenu aussi. Et elle expliquait qu'au marché de sous, elle voit bien, en fait, les gens qui pourraient vous demander le picodon suspendu gratos. Elle voit qui c'est, mais personne n'ose le faire. Parce qu'elle est pointée au stand au marché dire « Salut, file-moi ton picodon gratos. » Ouais. Ça marche pas. Et ces systèmes-là, suspendus, ça marche pas. Parce qu'en fait, t'as vraiment l'impression de venir faire le profiteur. Alors que là, l'idée, c'est que personne ne profite. C'est vraiment la pédagogie, que tout le monde participe.
Parce qu'elle a son stand des marchés, elle proposait un picodon.
Ouais, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Et que du coup, elle voit bien que le picodon suspendu, les gens n'osent pas, quoi.
Après, moi, des échos que j'ai eus depuis, des retours que j'ai eus depuis que je parle de ça et de la sécurité sociale, les gens, ils sont gênés de devoir choisir. Ils disent, mais oui, mais comment on sait, voilà, d'avoir la légitimité de payer moins, mais peut-être qu'il y a plus pauvre que nous. Et...
C'est pas vraiment compliqué à mettre en place. Il y a pas mal d'inconnus au départ.
Donc mais c'est en termes de caisse, de différents prix, cette logistique.
À la fin du total, quoi. Ça rajoute une seule opération et ça se passe plutôt bien pour l'instant. L'objectif, c'est d'avoir... d'attirer des gens qui ont besoin du prix accessible pour manger des légumes, quoi. Des légumes que je produis moi, que je sais être de qualité et que je suis ravi de vendre à des gens qui n'ont pas les moyens a priori. Tant qu'il y aura une caisse excédentaire, on continuera. Si jamais ça ne s'équilibre pas, on arrêtera parce que c'est... Moi, mes prix justes, ils sont vraiment justes. C'est en fonction... Enfin, voilà, c'est... Je ne suis pas philanthrope non plus, c'est pour gagner ma vie, mais voilà. Et puis, ce n'est pas juste que ce soit le producteur qui assume la différence. Donc, si ça ne s'équilibre pas, ça s'arrêtera.
Mon frère, il avait une petite phrase marrante, en fait, là-dessus. Il disait « Les paysans pauvres nourrissent les riches, et les paysans riches nourrissent les pauvres. » C'est-à-dire que les gros agriculteurs qui ont des grosses surfaces, des grosses aides de la PAC, vont abonder massivement dans les grandes surfaces, etc., et les petits paysans vont nourrir plutôt qui gagnent peu leur vie, en fait. Les petits salaires vont plutôt nourrir des gens qui ont les moyens. Donc c'est à nuancer, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est une punchline, quoi. Ça va voir le débat.
Moi, je m'appelle Anne-Laure, je suis éleveuse de chèvres à Alérac. Je fais du fromage de chèvre. J'ai un troupeau d'une quarantaine de pépettes qui sont toutes en train de mettre bas, là, donc ça saute dans tous les sens. Et du coup, ben, j'ai entendu parler de l'annonce pour le marché du lavoir. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer. Sachant que l'idée, je trouvais l'idée intéressante. J'avais déjà pensé à quelque chose pour essayer de rendre les prix plus attrayants, essayer de ne pas être trop cher. Parce que je pense que grosso modo, je dois être une des moins chères en bio, en fromage de chèvre du coin, je pense. J'ai un peu cherché, un peu raclé, mais je pense que je dois être une des moins chères. Et je vais être obligée d'augmenter, là, parce que c'est bien pas très tenable, tout ça. C'est assez difficile, parce qu'on pense aux clients, mais l'éleveur aussi derrière, voilà, il faut qu'il puisse vivre de son travail. Ce qui n'est pas évident tous les jours. Et donc, voilà, je trouve que l'idée est bonne. Quand on se place du point de vue des clients ou du point de vue de la solidarité entre les producteurs, je trouve que c'est un peu jackpot gagnant, là. Ouais. L'idée est vraiment, vraiment intéressante, quoi.
Donc, si les gens payent par carte bancaire, etc., ça pose quand même pour l'instant des soucis qu'on n'a pas résolus avec la comptabilité. Donc c'est plutôt, ça sera plutôt en cash et effectivement d'avoir une sorte de deuxième caisse à côté avec nous, un peu comme tu fais, c'est-à-dire un truc Excel où...
Ou 150 euros, qui sera, ou 100 euros, et ça leur donnera 100 francs alimentaires. Et on va gérer du coup tous les possibles pourcentages. De prix, on n'aura plus les trois prix, et après on n'aura plus qu'un seul prix.
Mais pour gérer finement le prix du
prix juste
en fonction du revenu, enfin c'est une gestion, faut s'appeler la sécurité sociale, quoi. C'est une gestion hyper fine.
Peut-être que du coup, toi, si tu vois que c'est trop pour toi, mais que tu seras entre les deux, bah, tu y vas une fois sur deux, quoi. Une fois tu prends le prix en blanc, et une fois tu prends le prix solaire.
Ouais,
et du
c'est
coup, tu vas faire comme ça, ou tu dis, allez, une fois par mois, je paye plus, et puis le reste du temps, je suis normal.
Bah, là, on commence ici. Bon, apparemment, bah, les gens sont un peu surpris, mais pour l'instant, ils ne posent pas trop de questions. Voilà, c'est OK, c'est comme ça. Je choisis ma couleur de vie et j'y vais. Pour l'instant, c'est comme ça. Hein.
Je m'appelle Martine et j'habite Dieulefit. Je suis donc bénévole sur les marchés qui vont pratiquer donc le marché solidaire.
Alors, tout à l'heure, il y a quand même un monsieur qui m'a dit « C'est quoi ce système-là » Alors, quand je lui ai dit que le maraîcher, à la fin du marché, marché, il faisait ses comptes et il ne récupérait que le juste prix pour lui, et que l'excédent eh ben, va dans une caisse de solidarité. Donc il m'a dit, mais c'est quoi cette caisse de solidarité, où va l'argent, etc. Donc voilà, donc je lui ai dit, bah, c'est au final pour lisser le projet, et que si il y a des marchés où il y a un déficit, eh ben, l'idée c'est pas qu'il travaille pour en déficit, hein, le maraîcher, et donc il récupérera en fait son, enfin pas tout l'excédent, hein, mais à la hauteur de ce qu'il a vendu, quoi. Voilà, de son prix à lui.
Chaque stand garde son autonomie, ouais. Mais par contre, la caisse alimentaire, elle pourrait être mutualisée pour récupérer les excédents des uns et redistribuer aux stands déficitaires. Et ça, ça peut être une sécurité pour certains qui ont peur de se lancer, en se disant que quand même, il y a une sorte de solidarité, non seulement assurée par les personnes qui viennent consommer, mais aussi entre les différents producteurs. Et pour ça, du coup, bah, dans notre groupe de travail, on travaille à une charte, parce que l'idée, c'est que par contre, si on mutualise une caisse, il faut qu'on puisse avoir confiance les uns dans les autres et de savoir qu'est-ce qu'on veut manger sur notre territoire. Et du coup, on essaie de réfléchir à une charte de consommation, quoi, de producteurs conventionnés, on pourrait dire.
Travail, on a bossé sur justement la création d'un conseil local de l'alimentation, puisque l'enjeu en fait c'est que ces sujets-là, ce sujet du conventionnement, donc qui va définir qui rentre dans le système ou pas, et ben que ça soit décidé démocratiquement avec un peu en mode convention citoyenne pour le climat, avec des gens tirés au sort, qu'on forme aux enjeux, qui vont auditionner différents acteurs. Et qui vont ensuite pouvoir, définir si oui ou non tel et tel produit rentre dans le système pour telle et telle raison. Mm-hmm. Donc même si là pour l'instant c'est notre petit groupe, on fait notre propre charte pour notre phase 2, on aimerait bien tout de suite avancer sur le volet démocratique en mode convention citoyenne pour le climat, mais notre conseil local de l'alimentation, et donc savoir comment est-ce qu'il serait constitué, comment il fonctionnerait, comment il se formerait, etc.
Oui, c'est vrai, au final, les comètes, c'est comme Daniel qui fait son pâté. Au final, ils achètent la farine.
Ouais. Non, mais on peut pas changer, je veux dire, des critères environnementaux. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, moi je consomme du café, je suis bien consciente.
Ça peut faire partie des critères, effectivement. Tu transformes, oui, mais tu fais gaffe à ce que tu achètes à la base.
Normalement, moi, il faut pas qu'il transforme à la mauvaise blague de la farine ukrainienne. Il faut qu'il transforme une farine avec un.
Bah, lui, typiquement, je crains à lui acheter parce que je sais que dans ses préparations, il achète des trucs, des plaquettes d'œufs en batterie.
Et j'ai pas vérifié, mais c'est un truc qu'on doit vérifier auprès du fournisseur. Leur filière, elle est pas. Je crois savoir que la fournée du Comet, sa farine, elle est correcte, la filière. Mais en fait, on doit vérifier.
Mais s'il y a d'autres producteurs qui s'ajoutent, c'est assez mal quand on parle.
Moi, ça m'arrange. Pour l'instant, il faut que ça concerne la vente directe de producteurs. Pour l'instant, on ne va pas trop se compliquer.
Encore une fois, sur le même piédestal que tout le monde.
Il faut vraiment vérifier et fournir des commerces, effectivement, il faut voir la filière de la
fraîche. Bon, au départ, du coup, il y avait la question de savoir si c'était juste pour certains producteurs ou tout le monde, producteurs, vendeurs ou tout le monde.
Ouais, bah, je suis plutôt confiante. Ce groupe de travail à alimentation là, qui se réunit le dimanche matin, une fois par mois, il est déjà composé d'habitants en fait, de tous les villages de l'Interco. Sur l'histoire de la sécurité sociale de l'alimentation, ce qui nous paraît important, c'est justement que ça soit pas une collectivité qui le porte, mais que ça soit vraiment les citoyens qui le portent. Le rôle de la mairie, ben, c'est d'être soutenant sur l'émergence, pas forcément vouloir aller plus loin. On a quand même des alliés parmi les élus donc de ceux qui étaient présents à cette commission agriculture où on a parlé plusieurs fois quand même du projet. On a le projet alimentaire territorial dont on va faire partie en fait. Donc j'ai l'impression que tous les ingrédients sont là. On est en train de se structurer aussi avec donc l'association Village en Transition qui est à l'échelle du territoire. Tous les ingrédients sont là pour multiplier des points de vente, pour avoir une solidarité entre ces points de vente avec une caisse mutualisée et faire une caisse locale gérée par un conseil local de l'alimentation. Je suis plutôt confiante sur cet aspect et agréablement surprise que ça démarre déjà si bien là avec Pont-de-Barret, avec la mutualisation avec le marché du Lavoir. Non, c'est prometteur.
Non, moi j'ai l'impression que les gens ils sont plutôt intéressés par l'expérience et plutôt enthousiastes. Ils trouvent que c'est une chouette expérience. Il y en a toujours un ou deux qui trouvent que c'est trop compliqué et qui ont leurs habitudes de marché, qui n'ont pas trop envie de les chambouler. Mais globalement, il y a un très bon accueil. Et les gens sont plutôt... Alors moi, je regarde pas les billes. Oui. Je le fais exprès parce que l'idée, justement, c'est de ne pas demander de justificatif ni de justification. Donc quand on vient me dire « moi, j'ai pas un gros budget, donc je vais prendre une bille bleue », j'arrête tout de suite la discussion et je leur dis « l'idée, c'est pas de me le dire ». Donc pareil pour la bille rouge. Donc je ne sais pas sur ce marché-là ce que ça a donné aujourd'hui. Sur le marché de Biolfi, c'est plutôt au départ, c'était plutôt un élan solidaire. Là, ça tend à s'équilibrer parce que, comme on a beaucoup fonctionné par le bouche à oreille, les publics qui ont besoin du prix accessible, ils commencent à se fidéliser, à revenir. Et donc, c'est hyper important de pouvoir expliquer, de faire de la pédagogie et de l'éducation populaire au début, mais aussi tout au long. Parce que si la caisse, elle vient diminuer, il faut que les gens qui peuvent être solidaires le soient. Voilà, donc il ne faut pas que l'élan s'essouffle.
Aller plus loin, on vous conseille la lecture de Encore des patates, une bande dessinée éditée par le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation. Vous pouvez également en apprendre plus sur ce projet politique sur leur site internet sécurité-social-alimentation.org. Un grand merci à Mathieu, Bernadette, Camille, Valérie, Antonin, Élodie, Anne-Laure, Julie et aux clients des marchés du Lavoir et de Pont-de-Barret. Plat de résistance, une série documentaire réalisée par Pauline Lemaire-Desmarais, Noé Guiraud, Xavier Charles et Clara Vincent. Création musicale, Xavier Charles. Mixage, Antonin Guerre. Avec le soutien de Popsu Territoire, du programme Leader et de la communauté de communes de Diolfi-Bourdeaux. Une production Radiola. Retrouvez tous les podcasts sur radiola.media/manger.